j'ai choisi les chants qui touchaient un peu plus sur le thème de l'amour, parce que justement, on va parler aujourd'hui de ce sujet, comment montrer l'amour. Comment montrer l'amour? Donc, pour démarrer, il faut savoir que l'amour est à la fois une décision et une action. Les deux vont ensemble, ils vont peut-être un avant l'autre, ça se suit peut-être, ou peut-être c'est ensemble, mais il y a dans l'idée de l'amour une décision et une action. Après sa résurrection, Jésus a eu un entretien avec son disciple Pierre. C'est une conversation qu'il aurait pu avoir avec n'importe qui parmi nous. Et là, ça se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 21. L'Évangile de Jean, chapitre 21. Et on va lire les versets 13 à 17. Jean 21, verset 13. Jésus s'approcha, prit du pain, et leur donna. Ça veut dire à tous les autres disciples qui avaient été à faire la pêche avec Pierre. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Donc, quelque part, Jésus est en train de demander à quel point Pierre aime Jésus. Quelque part, il est en train de dire, Pierre, est-ce que tu me choisis avant toute autre chose? Est-ce que ton amour pour moi, c'est une petite chose ou une grande chose? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Donc, sans entrer dans les détails, il dit, si tu m'aimes, tu vas agir. Okay? Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Donc là, il est en train d'interpeller Pierre, es-tu certain? Es-tu sûr? Est-ce que tu t'engages? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, la seconde fois, il dit, paie mes brebis. Toujours c'est la même chose. Tu m'aimes? Alors, il faut faire quelque chose. Agir. Verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Donc, quelque part, il est en train de dire, as-tu pris une décision définitive à mon sujet? À quel point est-ce que tu es décidé de m'aimer? Donc, Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, même tout. Il répondit à Jésus, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Donc, quelque part, la troisième fois, Jésus ayant déjà posé, « À quel point est-ce que tu m'aimes? Et es-tu certain d'être engagé envers moi? » etc. Maintenant, il dit, « Eh bien, je compte sur toi d'agir. » Ici, Jésus demande à Pierre de faire un choix de vie, si vous lisez le reste du texte, qui va même définir le genre de mort qu'il va subir. Vous voyez, si Pierre n'avait pas fait une décision définitive, il ne s'était pas engagé à 100% pour Jésus, il n'aurait pas arrivé à pouvoir mourir pour Jésus. Frères et sœurs, il faut décider. Il faut décider afin de pouvoir arriver à rester debout dans les difficultés. Si vous décidez d'aimer Jésus plus que toute autre chose, ça va déterminer de nombreuses autres choses dans votre vie. Si vous aimez Jésus, vous allez agir. Si vous choisissez Jésus, ça va se manifester. Jésus nous a dit à nous tous dans Jean 14, donc je vais simplement lire le verset 15 et 21, Jean 14, 15 et Jean 14, 21. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et plus loin, dans verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est-à-dire, nous allons montrer à Jésus que nous l'aimons par notre collaboration sous ses ordres. Donc Jésus continue. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc évidemment, il faut aimer Dieu. Dieu, le Dieu trinitaire. Et donc, il faut aimer Jésus. D'ailleurs, aimer Dieu, est le premier commandement. L'apôtre Jean dit dans son premier épître, chapitre 4, versets 20 et 21, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, il y a plein de monde qui dit, j'aime Dieu, mais qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, on peut se voir nous. Hein? Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc si on n'a pas l'amour pour son frère et on dit on aime Dieu, c'est une contradiction, ça ne va pas. Mais si vraiment on aime Dieu, on va aimer son frère. Aimer son prochain est un entraînement pour aimer Dieu. L'être humain est créé à l'image de Dieu. Malgré le péché, nous gardons en nous cette ressemblance à Dieu. En revanche, la haine ou le manque d'amour pour un prochain revient à dévaloriser Dieu. Un manque de respect ou d'amour pour le Dieu créateur, parce qu'on n'aime pas celui qui est créé à son image. C'est pour cela que le second commandement, donc le premier commandement, il faut aimer Dieu. Le second commandement, eh bien, est d'aimer notre prochain, et en particulier les autres chrétiens. Jésus a commandé aux chrétiens, aimez-vous les uns les autres. Cet ordre, sur la base de Lévitique, chapitre 19 et verset 18, est répété au moins 14 fois dans le Nouveau Testament. Je vais lire la plupart. Donc, dans Matthieu, chapitre 19, verset 19, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 39, et aussi dans Marc et Luc, donc j'ai pas répété chaque fois. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Romains chapitre 13, verset 9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne toueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Aussi dans Galates chapitre 5, verset 14, rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 34 et 35, Jésus, le Seigneur Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aussi, dans Jean 15, verset 12, Jésus a dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et encore dans verset 17, donc Jean 15, 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Puis l'apôtre Paul reprend l'idée dans Romains chapitre 13 et verset 8. Ne donnez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Et l'apôtre Jean dit la même chose dans 1 Jean chapitre 3, verset 11. Ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Il dit aussi dans chapitre 4, verset 11, « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, donc en parlant de Jésus, d'un tel amour qu'il s'est sacrifié pour nos péchés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Un peu plus loin, toujours dans Jean chapitre 1, toujours dans le premier épître de Jean chapitre 4, verset 16, au milieu, je commence. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bénit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, donc j'ajoute juste pour dire, hein, Jésus a déjà pris notre châtiment. C'est pour cela qu'il n'y a plus de crainte dans le salut, parce que Jésus a subi la punition pour nous. Et celui qui craint, donc le chrétien qui craint, n'est pas parfait dans l'amour. Il y a encore des choses à apprendre concernant l'amour. Pour nous, nous l'aimons. Nous aimons Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. Et puis, aussi l'apôtre Paul qui a dit ça, l'apôtre Jean qui a dit ça, et puis en plus on a l'apôtre Jacques qui dit dans Jacques 2, verset 8, « Si vous accomplissez la loi royale selon les Écritures, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc si vous accomplissez cette loi, il dit « Vous faites bien. » Donc, on doit nous poser cette question parce qu'on a vu ce mot X fois. Qu'est-ce donc l'amour? C'est quoi l'amour? Hein? C'est très important de bien comprendre ce que c'est l'amour. Parce qu'on ne peut pas remplir ou accomplir le commandement de Jésus, aimez-vous les uns les autres, si on ne sait pas de quoi ça s'agit. Okay? Donc, au fond, aimer, c'est faire du bien à autrui pour son bénéfice à lui, sans rien attendre en retour. C'est au fond, là. Faire le bien à l'autre pour son bénéfice, pour son bien à lui, sans rien attendre en retour. L'amour est bien plus qu'une émotion passagère. Le monde, l'amour, c'est les sentiments. Ça n'a très peu à voir avec les sentiments, bibliquement parlant. Premièrement, l'amour est un choix. L'amour est une décision. Dieu a aimé Jacob, c'est-à-dire Dieu a choisi le frère cadet comme aïeul de Christ. Ce n'est pas que Dieu a eu un sentiment envers Jacob. C'était une décision administrative. À droite ou à gauche, j'ai choisi Jacob comme aïeul de Christ. Donc, premièrement, l'amour est un choix ou une décision. Et en seconde, l'amour est une action sur la base de votre choix. Aimer est un sacrifice. Ça coûte quelque chose d'aimer. Ça peut coûter votre temps. Ça peut coûter vos émotions, votre argent, votre santé. Ça peut coûter vos amitiés, peut-être votre travail, votre famille, vos possessions, vos terres, etc. Nous lisons dans Marc chapitre 10, vous pouvez suivre, versets 28 à 30. Marc chapitre 10, verset 28. Pierre se mit à lui dire, parler de Jésus, il dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père, ou ses enfants ou ses terres, donc il n'y a personne qui ne reçoit au centuple. » Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des terres, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec les persécutions, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Le point, c'est que ça coûte quelque chose, ça peut coûter très cher d'aimer. Aimer peut être un acte de miséricorde. Aimer peut être un acte de grâce ou de bienveillance. Aimer peut être un acte d'hospitalité ou de générosité. Aimer peut être un acte des paroles, par exemple un encouragement ou bien encore de la correction s'il faut. Aimer peut être un acte de justice pour le plus grand bien, etc. C'est une action. Regardons les quatre tout de l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13 et verset 7. 1 Corinthiens chapitre 13 et verset 7. L'amour excuse tout. Ça veut dire que le chrétien doit pardonner. Il pardonne les fautes, les peines, les blessures, etc. L'amour croit tout. Faute de preuve du contraire, le chrétien devrait croire à la bonne volonté de l'autre. Peut-être plus tard, vous allez voir que non, c'était un mensonge. Mais, au premier niveau, nous devons croire. L'amour espère tout. En dépit de la situation actuelle, une personne dans laquelle une personne pourrait se trouver, Dieu peut tout changer. Que ce soit une autre personne, vous-même, vos circonstances, vous pouvez espérer qu'une personne mûrira, changera, dira la vérité, croira en Jésus-Christ, etc. L'amour espère toutes choses. Et puis, l'amour supporte tout. Même si le comportement de certaines personnes vous dérange, peut-être grandement, en tant que chrétien, vous pouvez être fort grâce à Dieu. De même, Dieu peut vous fortifier pour supporter ce qui vous arrive dans votre vie. Par contre, les non-croyants n'ont pas cette ancre, n'ont pas Dieu comme ancre. Le chrétien peut appliquer ces quatre principes, dans les quatre tout de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. Le chrétien peut appliquer ces quatre principes parce que l'amour est patient et plein de bonté. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 13 et verset 4. La bonté et le désir de faire le bien envers les autres. En conséquence, le chrétien devrait agir. Bon, j'ai trois points. Agir. Première chose, le chrétien devrait pratiquer l'égalité et la justice, ou l'équité. Si vous faites exception de personnes, vous commettez un péché et vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Ça, c'est Jacques chapitre 2, verset 9. Quelle transgression? Soit la convoitise, donc voilà, vous allez favoriser cette personne parce que vous convoitez recevoir quelque chose de sa part. Ou bien la dévaloration de l'autre personne. Vous défavorisez cette personne parce que vous le dévalorisez, vous n'avez pas une valeur pour cette personne. Donc, en fait, vous êtes en train de détruire l'autre personne et donc de la tuer. Le chrétien devrait reconnaître la valeur réelle des autres personnes aux yeux de Dieu et donc à vos yeux aussi. Le chrétien devrait s'intéresser aux autres personnes. Ayez en vue leur bien-être. Donc le message s'appelle « Comment montrer l'amour ?» On est dans ce point, ok? Comment montrer l'amour ? Première chose, c'est qu'on ne doit pas faire exception de personne. Il faut pratiquer cette égalité, cette justice. Déjà en reconnaissant leur valeur. Après, donc, le chrétien devrait s'intéresser aux autres personnes. Le chrétien devrait passer du temps avec les autres personnes. Vous ne pouvez pas vraiment montrer une valeur à l'autre personne, que cette personne a de valeur, si vous l'ignorez constamment. Peut-être que cette personne n'est pas de votre optique sur quelque chose, vous n'êtes pas le même caractère ou quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas, mais quand même, cette personne, aux yeux de Dieu, a une grande valeur, devrait avoir à vos yeux une grande valeur. Donc, vous pouvez passer un petit moment, un peu de temps, avec cette personne pour montrer à cette personne que vous lui accordez, vous le reconnaissez, leur valeur. Les chrétiens devraient pratiquer les œuvres bienfaisantes et les œuvres de grâce. Les œuvres de grâce, donc l'entraide, la gentillesse, le secours, etc. Même si la personne ne le mérite pas. Donc, on parle là de la grâce. Mes frères, donc c'est Jacques qui parle. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Donc, pour comprendre, si l'on ne manifeste aucune bonté. Hein? Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne manifeste aucune bonté? La foi, c'est-à-dire une telle foi qui ne manifeste aucune bonté, peut-elle le sauver, c'est-à-dire peut-elle délivrer, peut-elle guérir, peut-elle faire une chose bienfaisante, une foi qui n'a aucune œuvre de bonté, peut-elle avoir un effet bénéfique? Quelle est l'utilité d'une foi qui ne fait rien? Ça, c'est la question. Quel résultat salutaire résultera d'une foi sans action? Donc, il donne l'exemple. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'autre d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, comme si ça va nourrir leur estomac, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il est en ainsi de la foi si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Puis un peu plus loin, Jacques ajoute, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qui montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. Le point de tout cela, c'est pour montrer que Dieu s'attend à ce que les chrétiens agissent, et ceci pour le bien des autres. Le deuxième point, c'est que le chrétien doit contrôler ce qu'il dit. Une action très importante est de tenir sa langue. Donc Jacques chapitre 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser
une grande forêt.
La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces des bêtes et des oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. C'est un mal qu'on ne peut réprimer et est plein d'une venin mortel. Donc, Jacques nous met en garde contre notre langue et l'importance de la tenir en bride, parce qu'on peut faire tellement de mal par ce que nous disons. Ainsi, la parole dit que par amour, de manière négative, à propos de notre langue, ne dites pas du mal des autres, Jacques chapitre 4, verset 11, et ne vous plaignez pas les uns des autres, Jacques chapitre 5 et verset 9. Au positif, il dit, dit ce qui sert à l'édification. Donc, édification, donc encouragement, compliment, conseil, reprendre avec douceur, etc. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 29. Et puis, Jacques dit dans chapitre 5, verset 16, qu'il faut prier les uns pour les autres. Aussi, donc le troisième point, autant que possible, les chrétiens devraient respecter les opinions et les particularités des autres personnes. Donc, je vais lire dans Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48, Jésus enseigne, vous avez appris, donc c'est les choses qui étaient la première partie, enfin c'est la seconde petite partie là, mais c'était dans la tradition, c'était dans les dictons de l'époque, c'est pas dans la première partie c'est dans la Bible, la seconde partie était dans la tradition, vous allez voir. Vous avez appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Donc cette partie-là, tu haïras ton ennemi, il ne vient pas de Dieu. Mais c'est ça qu'on apprenait aux Juifs de l'époque de Jésus. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il, donc, car Dieu fait lever son soleil, c'est à lui le soleil, hein, son soleil, sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agitez pas de la même, de même. Verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agitent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste. Et parfait. Dieu veut nous rendre parfaits dans l'amour, c'est-à-dire dans la pratique de la bienfaisance altruiste. Puis Paul reprend cet enseignement de Jésus dans Romains chapitre 12, versets 17 à 21. Romains chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, c'est-à-dire laissez Dieu s'en occuper lui-même. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Pour ainsi dire, il est bien plus honorable de mourir en venant à l'aide de votre ennemi que de l'observer mourir de faim, de soif ou de blessure. Donc, un peu par voie de conclusion, je vais tourner dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, on va lire versets 12 et 13. Jean chapitre 15, verset 12, Jésus dit, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et c'est bien cela que Jésus a fait. Il a donné sa vie en échange pour nos vies. Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus n'est pas venu pour sauver ses amis. Il n'est pas venu pour sauver les gens saints. Mais au contraire, il est venu pour sauver les pécheurs, ses ennemis. Il est mort pour les péchés du monde entier. Et Paul explique ceci dans Romains chapitre 5, versets 6 à 10. Romains chapitre 5, versets 6 à 10. Donc, Romains chapitre 5, verset 6. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourra-t-on pour l'injuste? Quelqu'un peut-être mourra-t-il pour un homme de bien? Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. C'est-à-dire, si Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour nos péchés, et nous avons accepté cela, et Dieu nous a sauvés, eh bien, il n'y a pas de possibilité que Dieu ne va pas nous sauver de la colère. C'était le but même que Jésus est venu. Donc, vous devez vous rassurer dans l'Évangile, dans la vérité que Dieu nous a enseignée concernant le salut. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous voyons par cela que la folie de Dieu est bien plus puissante que la sagesse des hommes. Dieu a fait un choix. Il a décidé de sauver les pécheurs. Puis Dieu a agi. Il est devenu un homme afin de mourir pour le péché. Tous les frais de notre salut sont tombés sur Jésus. C'est lui qui a tout payé. Oui, ça lui a coûté cher de nous aimer. Donc la question, pouvons-nous faire moins? Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est d'un côté un choix, de l'autre côté une action, une décision et une manifestation. La décision de manifester le bien et la bonté envers les autres pour leur bien à eux. Et ce n'est pas simplement la décision, mais aussi l'action, de mettre en pratique. Jacques, chapitre 2, verset 8 encore. « Si vous accomplissez la loi royale, selon les Écritures, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. » Chers amis, j'espère que vous faites bien, que vous prenez la décision devant Dieu d'aimer vos prochains et que vous vous permettez de manifester votre amour par les actes de bienfaisance. Amen. Thank you.